Mes remerciements à votre généreuse donation. Bienvenue à ceux d'entre vous qui sont ici dans l'auditoire et ceux qui nous regardent en ligne. Je m'appelle Ray, un des pasteurs ici. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de Noël. C'est lui, mon roi, comme le pasteur Rivin nous l'a rappelé la semaine dernière pendant l'Avent. Que nous nous souvenons que Jésus est venu et nous nous souvenons qu'il revient. Et nous vivons dans le temps intermédiaire où nous voyons encore les ténèbres. Nous expérimentons encore la tristesse et nous expérimentons encore l'oppression de force du mal à l'œuvre autour de nous. Et nous nous posons des fois des questions. Quand est-ce que Dieu interviendra-t-il un jour dans ma situation? Est-ce qu'il fait quelque chose? Nous mettons en question sa sagesse, son chronométrage, et Dieu va-t-il répondre à nos questions alors que nous allons lever Ésaïe, on va lire Ésaïe 9, 2 à 6. Tu rends le peuple nombreux. Voici une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Baissons nos têtes pour la prière. Père, nous sommes si reconnaissants de l'envoi de ton Fils Jésus et nous te remercions de la façon dont tu t'es révélé pleinement en Jésus, la façon dont les Écritures ont pointé vers lui et nous ont révélé qui il était, qui il est et qu'est-ce qu'il a. Sera pour toujours. Et ce matin, alors que nous étudions ta parole, puisses-tu ouvrir nos yeux encore une fois de voir, dispose nos esprits à comprendre, nos cœurs à recevoir tout ce que tu as pour nous, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Premièrement, nous devrons considérer les peuples auxquels cette parole avait été donnée dans ce début de chapitre 9. À l'époque où Dieu donne ses paroles au prophète Ésaïe, le royaume de Juda, sous le règne du roi Achaz, est menacé par le royaume du nord d'Israël et le royaume de Syrie. Ils sont prêts à faire la guerre à Jérusalem, c'était une superpuissance à l'époque, c'était la Syrie. Alors, ces royaumes étaient prêts à faire la guerre contre Jérusalem, et les Écritures disent que le roi Achaz tremble comme les arbres qui tremblent devant le vent. Le roi Achaz reçoit un conseil clair du Seigneur. Par le prophète Ésaïe qui dit: Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas à cause de ces deux bouts de tissons fumants. Ne crains pas la Syrie, et ne crains pas le royaume du nord d'Israël. Et il a reçu beaucoup plus d'encouragement à travers le prophète Ésaïe qui lui dit: Demande un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas et soit dans les lieux élevés. Demande-lui ce qui te convaincra. Au lieu de demander un signe à Dieu, le roi Akaz ferme le temple de Jérusalem. Au lieu de se confier en Dieu, il met sa confiance dans la superpuissance de l'époque, la Syrie. Est-ce sage de faire confiance avec ton ennemi? Au lieu de s'humilier devant Dieu, il sacrifie ses fils aux idoles. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il consulte des morts par des médiums, à travers les médiums. Le roi Akaz s'enveloppe des ténèbres spirituelles. Et il en est de même pour le peuple de Juda. Il rejette la présence de Dieu vivant parmi eux. Ils maudissent Dieu et le roi. La sagesse d'Akaz conduit la nation à la ruine. Je me pose, est-ce que notre pays est-il différent? Je me pose la question. Aujourd'hui, 47% des Canadiens s'identifient comme des chrétiens nominaux. En d'autres termes, ils diraient qu'ils sont d'héritage chrétien, mais ils ne pratiquent pas la foi chrétienne. 35% se considèrent comme n'ayant aucune religion. 12% pratiquent d'autres religions, islam, hindouisme, sikhisme et autres. Et seulement 6% de la population s'identifierait ici au Canada comme des chrétiens évangéliques engagés. Comme l'a écrit un universitaire canadien spécialiste des religions, il dit « La grande majorité des Canadiens sont devenus moins enthousiastes, indifférents, voire hostiles au christianisme. » Un article de 2015 de Maclean intitulé « Ce que les Canadiens croient vraiment », un sondage surprenant révèle ceci. Quelle que soit notre polarisation sur certaines questions, il existe des croyances surprenantes partagées par de nombreux Canadiens. Le pourcentage de personnes qui croient qu'il est possible de communiquer avec les morts a doublé au cours des 3 dernières décennies, passant à 42%. La part des personnes qui croient que Jésus était le Fils divin de Dieu a régulièrement diminué, mais plus de gens croient qu'ils seront réincarnés, jusqu'à 1/3 des Canadiens. Plus de la moitié des Canadiens croient que certaines personnes ont des pouvoirs psychiques. La seule constante dans le sondage a été une croyance dans les anges enracinée dans la culture populaire. Alors, si cela qui est écrit, si cela en serait... Si cela ne serait qu'approximativement vrai, alors nous embrassons au Canada un paganisme spirituel et nous nous trouverons de plus en plus dans les ténèbres, la tristesse et l'oppression. Notre société sera désespérée pour un conseiller qui nous conduise des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, hors de l'oppression vers la liberté. Et c'est précisément dans notre monde dans lequel nous vivons qu'un enfant est né, qu'un fils nous a été donné, non pas acheté par nous, mais offert en cadeau à nous. Dans nos ténèbres, la lumière a brillé. Qui est le fils qui nous est donné? 4 titres révèlent son caractère, sa puissance et sa sagesse. Le premier titre est « Conseiller admirable ».« Conseiller admirable ». Ce sont en fait 2 mots hébreux, merveilleux et conseiller, ou merveille et sagesse. Le mot peuvent être traduits comme 2 titres séparés, admirable et conseiller, ou peuvent être regroupés comme conseiller admirable, comme on lit dans dans planificateur opérant des merveilles ou sagesse opérant des merveilles. Je pense que sagesse opérant des merveilles rend le mieux le sens voulu dans ce texte. Sagesse opérant des merveilles. Jésus qui opère des merveilles est toujours à l'œuvre avec une sagesse infinie. Sagesse opérant des merveilles combine l'idée de faire quelque chose de merveilleux, extraordinaire, miraculeux, avec l'aptitude à donner un conseil sage et à accomplir ses desseins avec une sagesse exquise. Voici donc notre plan simple pour aujourd'hui. 1. Merveille. 2. Opérant. 3. Sagesse. Commençons avec merveille. Le mot hébreu pour merveille est le mot hébreu le plus proche de l'idée de surnaturel. Le même mot, merveille, est utilisé pour les merveilles dans la délivrance d'Égypte, d'Israël d'Égypte. Dieu sépare la mer rouge pour le peuple hébreu, assure une traversée sûre pour chacun d'eux. Dieu guide les peuples par la nuée et la colonne de feu la nuit, pendant la journée la nuée, la nuit la colonne de feu, et fournit la manne et l'eau pour leur survie dans le désert. Le mot merveille nous oblige à prêter attention au Fils qui nous est donné. Il témoigne de sa divinité. C'est lui qui opère des merveilles lors de l'exode d'Israël, et le même Dieu opérant des merveilles à travers Jésus. Il a la capacité et le pouvoir d'intervenir dans notre histoire, dans notre monde. Non seulement il opère des merveilles, Jésus lui-même, dans sa personne même, est la merveille. Dans Jean 5, un homme infirme depuis 38 ans est couché à côté d'un bassin de Jérusalem, le bassin de Bethesda, ce qui signifie la maison de la miséricorde. Le parvis du bassin grouille des boiteux, d'aveugles, des faibles, des malades. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance superstitieuse que lorsque l'ange trouble l'eau, il y aura une guérison dans l'eau et la première personne à entrer dans le bassin sera guérie. Ils sont désespérés pour un merveille, pour un miracle. Dans ce cadre de souffrance et de désespoir, Jésus entre, il fait son entrée. Il voit l'homme infirme. Il sait qu'il est là depuis longtemps à attendre, à espérer. Et Jésus lui pose une question curieuse. Veux-tu être guéri? La réponse que j'ai essayé pendant 38 ans. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme est guéri immédiatement, il s'élève. Jésus est merveilleux. Est-ce que la guérison est complète? Quelque temps plus tard, Jésus va le trouver, le monsieur, dans le temple, et il lui dit, voilà, tu es bien, ne pêche plus, que rien de pire ne t'arrive. Jésus connecte sa maladie qu'il a laissée au bassin pendant 38 ans au péché. En guérissant l'infirme, Jésus a manifesté la miséricorde. L'histoire révèle, si vous la lisez, que cet homme infirme qui était au bassin, à la piscine de Bethesda, n'est pas un homme de caractère exceptionnel. Il n'est pas seulement une victime des circonstances de la vie. Pour continuer dans sa guérison nouvellement trouvée, il devra arrêter de pécher, de cesser de jouer la victime et arrêter de rejeter la faute sur les autres. Nous le voyons dans l'histoire à plusieurs reprises. Il doit obéir aux paroles de Jésus et prendre possession de son intégrité. Lève-toi et marche et suis Jésus. Déclarer Jésus est mon roi. Jésus est la merveille qu'il doit connaître. Dans le Fils qui nous est donné, nous voyons Dieu opérer des merveilles. Si vous le lisez à travers les évangiles, vous allez voir la naissance virginale, les visites angéliques, les messages venus des cieux. Pendant la vie de Jésus sur terre, nous le voyons opérer des merveilles, guérir les malades, opérer des délivrances des esprits mauvais, proclamer le royaume de Dieu, multiplier le pain, calmer la mer. Jésus qui opère les merveilles est toujours à l'œuvre, avec une sagesse infinie. Mais le but de tout cela est que nous voyons Jésus, la merveille. Témoignez, tournez votre regard vers l'écran pour suivre le témoignage de Spinelli Eder. En 2015, le Seigneur a poussé un jeune homme nommé Herman à prier pour moi après le service de Vendredi Saint à l'église de Willingdon où je faisais partie de l'équipe de louanges. Je l'avais jamais rencontré auparavant et il ne savait rien de mon état de santé, si ce n'est de remarquer que j'avais besoin d'aide pour traverser la Seine et que j'avais besoin d'un tabouret pour m'asseoir pendant que les autres étaient debout. C'était quelques-unes des preuves et des effets de la sclérose en plaques rémitantes, une maladie qui m'avait été diagnostiquée depuis 1991. Au fil des années, les rechutes avaient affecté ma mobilité et mon équilibre et ma mémoire, et j'ai lutté contre une fatigue chronique. En 2007, j'avais dû abandonner ma carrière d'infirmière autorisée. Herman m'a demandé si je croyais à la prière et si je lui ai dit que je croyais en la souveraineté de Dieu et que si c'était sa volonté, il pouvait m'accorder la guérison. Un autre membre de l'équipe de louange s'est joint à nous pour prier Dieu pour la guérison. Ensuite, Herman m'a demandé ce que je ressentais et je lui ai dit avec sincérité que je ne ressentais aucune différence, mais je l'ai remercié d'avoir prié. Et puis je suis parti et j'ai pleuré tout le long du chemin de retour dans ma voiture. Voyez-vous, j'avais prié pour la guérison auparavant de nombreuses fois et puis j'avais arrêté de demander, croyant que la réponse de Dieu était non. J'avais cessé d'espérer, c'est-à-dire jusqu'à ce que Herman fasse renaître mes espoirs. Cela faisait mal de les voir s'effondrer. J'ai crié à Jésus ce soir-là et en plongeant dans la parole, j'ai senti qu'il me demandait, « Que ferais-tu si je choisissais de ne pas te guérir? Me ferais-tu encore confiance ?» Crois-tu que je suis toujours non? Il y a eu une lutte considérable avec Dieu cette nuit-là, mais j'ai senti que Jésus disait, je n'étais jamais dit d'abandonner l'espoir. Espoir, espère en moi, pas à mes miracles, en mes miracles. Fais la confiance à ma parole, pas à tes circonstances. Continue de demander, continue de chercher, continue de frapper. Jésus était en train de me demander de faire confiance à son caractère, sa bonté, sa sagesse et son habilité à me guérir. À la fin, ma réponse était, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon espoir est en toi. Tu es le rocher sur lequel je m'élève. Je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai dévalé les escaliers pour me rendre compte que j'avais en effet dévalé les escaliers. Mes symptômes avaient disparu. Mon équilibre, ma force et mon endurance étaient intacts. Je n'avais plus besoin d'aide à la mobilité. Et je vais fort sans symptômes depuis ces 10 dernières années. Il n'y a aucune explication scientifique pour mes fonctions et capacités restaurées. La remède et ma surprise, les imageries actuelles montrent toujours les plaques sur le cerveau ont changé, mais sans déficit neurologique. Mon neurologue ne peut offrir aucune explication pour l'amélioration de mes fonctions et ma capacité. J'ai pu retourner aux soins infirmiers, une carrière que je n'avais pas pu exercer pendant 10 ans. J'ai souvent demandé à Dieu, « Ne penses-tu pas que tu serais le plus glorifié dans ces miracles si tu enlevais toutes les traces de cette maladie ?» Mais ces voix ne sont pas mes voix. Je dois faire confiance à sa sagesse, il est Dieu et je ne le suis pas. Je loue Dieu pour ce répit qu'il m'a accordé. Je me souviens que lui en personne est ma véritable joie ultime et pas seulement ses miracles. Job 1, 21 dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. » Que le nom de l'Éternel soit béni. Pour un temps comme celui-ci, il a choisi de me bénir avec une santé et des capacités restaurées. Voilà mon roi. Merveilleux testimonie. Il a attendu au moins 10 ans pour la touche de Dieu, pour la guérison de Dieu. Deux fois, c'est difficile pour nous d'attendre même 10 secondes. Elle a connu une restauration, mais elle attend encore une restauration complète physique. Nous nous trouvons souvent à attendre que Dieu commence à œuvrer, qu'il continue à œuvrer et qu'il achève son œuvre. Jésus est la merveille qui est toujours à l'œuvre. Notre second point. Pendant que nous attendons, que vivons-nous? Souvent, l'anxiété peut nous assaillir parce que les choses échappent à notre contrôle. Parfois, nous glissons dans la dépression et le désespoir. Parfois, nous perdons tout espoir. Pendant que nous attendons, que faisons-nous? Nous essayons souvent de prendre le contrôle, de déterminer les résultats. Parce qu'il semble que Dieu n'est pas en train de bouger. Nous ressemblons à l'envie de faire bouger les choses. Pendant que nous attendons, que Dieu nous demande-t-il de faire? De l'adorer, de prier, de jeûner, de le faire confiance. Il nous invite à lui apporter notre douleur et notre impatience, à attendre et à être attentif. Pendant que nous attendons, il nous invite à soumettre nos peines et nos douleurs. Pendant que nous attendons ou allons-nous chercher conseil, nous devrions ancrer nos vies dans la parole du Seigneur. Mais nous nous fions souvent aux conseils humains. Pendant que nous attendons, qu'est-ce que fait Jésus? Il forme notre caractère. Il travaille sur il nous transforme les problèmes de notre cœur comme la patience. Être patient veut dire apprendre à faire confiance à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu, à son chronométrage. Considérez la mère de Jésus, Marie, jeune femme enceinte par le Saint-Esprit, qui court chez sa cousine Élisabeth, lui donner la nouvelle. Et pendant qu'elle y est, son mari pense à la divorcer discrètement. Marie s'était soumise à la volonté de Dieu complètement. Elle a dit, Elle parle à Joseph pendant dans cette attente. La vie de Jésus est l'exemple suprême des dieux œuvrant dans des merveilles insondables pour accomplir ses desseins parfaits dans son temps parfait, comme les Écritures le disent. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption comme fils. 1 Pierre parle des prophètes de l'Ancien Testament prophétisant. Mais se demandant quand leur Messie viendrait. Dans le désir. Une chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'il est venu d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, né dans une mangeoire, avec une mission que nous n'aurions jamais considérée, Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Une sagesse au-delà de notre compréhension. Il a agi, il a fait des choses miraculeuses, œuvrant avec une sagesse extraordinaire pour accomplir son merveilleux plan de rédemption, un plan par lequel il a vaincu le pouvoir du péché, de la mort et du malin. Dieu est toujours à l'œuvre pour accomplir ses desseins divins. Et nous, dans notre vie, nous avons le privilège d'entrevoir Dieu en train de réaliser merveilleusement ses plans. Un des commentateurs les plus tristes des Écritures, et celui de Jean 1, 9, 11. Cette lumière, la vraie lumière, cette lumière était la véritable, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs ne l'ont pas reçu, la majorité des Juifs ne l'ont pas reçu. Il n'est pas venu comme il les voulait. Il n'a pas œuvré selon leur plan. Alors que nous chantons souvent, comme nous chantons souvent, nous devons faire confiance à Dieu pour qu'il soit à l'œuvre. Même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le sentons pas, il œuvre toujours avec une sagesse parfaite. Notre troisième point, la sagesse. Jésus est la sagesse parfaite. Il n'a pas besoin de s'entourer des conseillers, de guides spirituels, des gourous, d'analystes comme Paul l'écrit. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il œuvre avec une sagesse bien au-delà de notre compréhension. Comme Dieu l'a dit par le prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi, quand nous souffrons et que nous demandons, nous posons des questions, Jésus interviendra-t-il jamais dans ma situation? Est-ce qu'il fait quelque chose? Puis-je attendre son temps propice? Quel est le but dans tout cela? Où trouvons-nous un bon conseil? Où allons-nous pour un bon conseil? Voici le témoignage d'une jeune mère. Je vais citer ce qu'elle a. Que se passe-t-il lorsque celui à qui est confié le leadership dans le foyer commence à abuser de cette autorité? Et si obéir au désir d'un homme signifiait désobéir à la voix de Dieu, favoriser le péché, permettre un préjudice ou s'aventurer dans un danger spirituel, et si la soumission devenait dangereuse? Au milieu de mes questionnements, Jésus, mon conseiller admirable, n'a cessé de me ramener à un livre qui est devenu un phare dans ma tempête, les Proverbes. Ces pages brillent d'une sagesse constante pour les moments où la vie semble assombrie par la confusion. Et un verset s'est élevé comme un signal. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Par ce verset, le Seigneur m'a doucement conseillé, la sagesse n'est pas passive, le discernement n'est pas la désobéissance. Et fuir le danger peut être un acte de foi. Quand j'ai senti Dieu m'inciter à quitter une situation dangereuse, j'ai dû avancer sans rien de certain devant moi. Je n'avais presque pas de ressources financières. Pourtant, la provision m'a rencontré de manière que je n'aurais jamais pu organiser par moi-même. Par son peuple, mes enfants et moi avons trouvé un abri et de la nourriture. Une femme que je ne connaissais pas avant cette année a commencé à cuisiner pour nous chaque semaine, apportant des repas et des pâtisseries avec une générosité qui semblait presque irréelle. Une amie est venue d'une autre ville tard dans la nuit avec une voiture pleine d'articles pour enfants, des vêtements et d'essentiels. Et une conseillère en trauma est entrée dans ma vie exactement au moment où j'avais besoin de ce soutien. Je suis de nature planificatrice et j'ai pensé que cette année se déroulerait très différemment. Mais Dieu avait un chemin différent en tête, marqué par des merveilles discrètes, des provisions inattendues et un guide auquel je pouvais me fier même quand je ne voyais pas le chemin devant moi. Dieu a été un conseiller admirable pour moi, constant, sage et présent calmement à chaque pas. Alors, comment discernons-nous un chemin sage quand la vie est si incertaine? Je continue à lire ce qu'elle a écrit. Premièrement, nous nous ancrons dans les Écritures. Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt à quel point la sagesse de Dieu est profondément pratique. Les Proverbes enseignent qu'il y a plusieurs sortes de fous et qu'il faut répondre différemment à chacun. Avec le colérique, nous retenons notre langue. Avec l'arrogant, nous offrons une réprimande prudente, pas de la flatterie. Avec l'opiniâtre, nous mesurons nos paroles pour éviter les conflits inutiles. Et si la sagesse est continuellement piétinée et que la paix ne peut pas être trouvée, alors les Écritures nous rappellent que parfois le dernier acte de prudence est de fuir. Deuxièmement, Dieu, notre conseiller admirable, parle souvent par son peuple. Nous devons nous entourer de conseillers chrétiens matures, restant enseignables et humbles. La thérapie traditionnelle peut être utile, mais elle ne peut pas atteindre les profondeurs que Dieu seul peut atteindre. Ainsi, nous amenons les ténèbres à la lumière devant les amis de confiance, des mentors et des responsables d'église, afin que Dieu puisse nous guider à travers la communauté de ses saints. Et troisièmement, le plus essentiel de tout, nous venons chaque jour à celui qui n'abuse jamais de l'autorité, ne manipule jamais, ne rabaisse jamais, ne blesse jamais. Nous déposons nos craintes devant Jésus et lui demandons de nous conduire. Son temps parfait est parfait, sa sagesse est pure, son conseil restaure même l'âme la plus épuisée. Il est celui qui vous a créé, vous voit et sait comment guérir chaque partie de vous. Il n'est pas seulement un conseiller humain sage, mais un conseiller miraculeux, extraordinaire dont la sagesse évoque la crainte et la révérence. Il est et sera à jamais mon conseiller admirable. Fin de témoignage. Sagesse opérant des merveilles. Peu importe la profondeur du désespoir, peu importe la saison traumatisante, Jésus, le merveilleux conseiller. Le commentateur biblique Edward Young écrit ceci: ces mots sont un baume de guérison dans lequel l'âme chrétienne trouvera réconfort et force à travers le temps et l'éternité. Le titre révèle la force guérissante, la sagesse, la clarté et le réconfort de Dieu. En terminant, un mot pour ceux qui ont reçu Jésus comme votre conseiller admirable. Vous avez déjà expérimenté le plus grand miracle, la plus grande merveille, la plus grande sagesse. Vous avez reçu un cœur nouveau, vous êtes spirituellement vivant. Vous connaissez la merveille, Jésus. Vous connaissez la sagesse personnifiée. Dans la souffrance, vous devez vous rappeler que Jésus seul est équipé pour vous conseiller à travers les temps les plus sombres, pour faire briller la lumière sur vos ténèbres, pour vous remplir de joie au milieu de la tristesse et pour vous libérer de l'emprise de l'oppression et du désespoir. Il est Emmanuel, Dieu avec vous, en toutes circonstances, maintenant et pour toujours. Dans votre attente, priez comme ceci: Seigneur, ta volonté, ta voix, en ton temps propice. Tes plans sont meilleurs que les miens, ta volonté est meilleure que la mienne, ton temps parfait est meilleur que le mien, est parfait. Et apprenez à connaître encore plus profondément que Jésus, qui opère des merveilles, est toujours à l'œuvre avec une sagesse infinie. Et si vous n'êtes pas encore venu à connaître le merveilleux conseiller, vous n'avez pas encore ouvert votre vie à Jésus, la merveille, alors il t'invite à le connaître. Il t'invite à disposer, à ouvrir ton cœur, à lui ouvrir son cœur pour recevoir ce qu'il a fait pour vous par sa vie, sa mort et sa résurrection. Recevoir est un acte d'abandon humble. Qu'arrive-t-il à ceux qui abandonnent leur cœur à la sagesse de Jésus? Jean 1, 12 dit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, le Père et le Fils enverront le Saint-Esprit pour demeurer en toi, pour te guider, de rester dans ton cœur. » Pour te consoler, pour te conseiller. Et Jésus a dit ceci au sujet du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La sagesse de Dieu vivant en vous, le Saint-Esprit te donne le don des conseils en tout temps. Psaume 33, 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. L'Esprit de Dieu vous guide dans la vérité afin que vous puissiez comprendre les temps et les saisons de votre vie. Dans les moments les plus sombres, vous pouvez dire avec le psalmiste: j'ai béni l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Voudrais-tu connaître le conseiller, le merveilleux conseiller? Jésus t'invite à lui ouvrir ton cœur. Prions. Père, nous te remercions encore d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Et Jésus, cette saison de Noël, nous célébrons ta première venue et nous attendons ton retour et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. À travers ta vie, à travers ta mort, à travers la résurrection. Merci d'avoir envoyé ton esprit demeurer en nous. Merci parce que nous ne sommes jamais seuls et que tu es le merveilleux conseiller pour nous guider, nous réconforter, pour voir la sagesse. Et pour ceux qui n'ont jamais soumis leur vie, je prie pour eux qu'ils puissent s'ouvrir à toi et dire oui. À toi, Jésus. Si c'est toi, invite seulement Jésus. dans ta vie. Seigneur, nous nous abandonnons à toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Si tu as un désir sincère de commencer à suivre Jésus, je t'encourage de parler à la personne avec laquelle tu es venu, ou tu peux aller au centre de prière ou de ressources. Quelqu'un va prier avec toi. Je vais mettre quelques questions pour nos réflexions. On va passer un moment d'adoration. Il y a un temps de prière pendant d'adoration. Les pasteurs, les anciens et les leaders vont être ici en bas et au-dessus, au balcon.